Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes évidemment sur Radio Rancière dans l'émission Libre Propos. Christophe Jubien pour vous accueillir. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui encore notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, pour évoquer l'actualité. Et en premier lieu, allez hop, je mets les pieds dans le plat, nous allons évoquer le phénomène Zemmour. Alors qu'on ignore s'il aura la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Je rappelle qu'il lui faudra au préalable réunir 500 signatures de maires. Éric Zemmour caracole dans les sondages, certes en deuxième position derrière Emmanuel Macron, mais très souvent devant Marine Le Pen et loin devant les autres candidats. Monseigneur, êtes-vous étonné du succès populaire rencontré par celui qui n'était encore il y a peu de temps qu'un journaliste finalement ?
Bonjour Christophe, heureux d'être sur l'antenne à nouveau de Radio Grand Ciel. Pour être très franc avec vous, je ne suis pas très impliqué dans la politique. D'ailleurs, mon rôle d'évêque n'est pas un rôle politique, il est un rôle d'accompagnement de l'Église catholique dans ce territoire d'Eure-et-Loir. Maintenant, parfois effectivement, je vois les nouvelles sur les radios ou dans les journaux. Zemmour, effectivement, est un journaliste. Et un journaliste un peu polémique, ou un polémiste, on pourrait dire, il me frappe toujours par sa mémoire de l'histoire, notamment. Il relie beaucoup d'événements historiques à beaucoup de précision, en tout cas, ça me semble être son talent. Donc, j'ai pas d'avis politique sur sa compétence personnelle à assumer le rôle qu'il pourrait prétendre avoir s'il se présentait au présidentiel. Je vois en tout cas que ce pays, que nous aimons, la France, a besoin d'une figure politique qui donne confiance au peuple, qui se sente à la fois conduit par quelqu'un de qualité, homme ou femme bien sûr, tout en respectant le peuple et en respectant sa liberté et sa dignité. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois on est quand même très contraint et avec des prétextes qui nous paraissent, enfin qui doivent paraître justes, comme les contraintes sanitaires, mais pas toujours expliquées correctement. Et voilà. Qui sera la bonne personne pour ça ? Moi, j'avoue que je vois pas très bien aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'y en a pas une dans celles qui pourraient prétendre être candidat. Ce qui est étonnant, c'est de voir que contrairement à il y a 30 ou 40 ans, où il y avait des partis très installés, comme le Parti communiste français, le Parti socialiste, le RPR, enfin l'UDF, enfin, ces partis qui étaient un peu installés, avaient un candidat quasiment
naturel
oui, désigné d'avance, et puis voilà, et puis un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, et c'était très naturel. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui prétendent au pouvoir n'ont plus de parti derrière eux, d'ailleurs. Emmanuel Macron a été élu quasiment en ayant créé son parti, mais sans parti derrière lui au départ. À part parce que Marine Le Pen, qui a un parti quand même derrière elle, on voit émerger des figures nouvelles. Et on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui, en l'espace de 2 mois, viendrait sur le devant de la scène et pourrait convaincre les Français qu'il a la réponse aux grandes questions qui se posent. Maintenant, est-ce qu'il aurait, et c'est le cas de Zemmour, est-ce qu'il aurait les moyens d'avoir une vraie équipe derrière lui, avec des compétences politiques suffisantes? Les dossiers sont quand même très vastes, il y a beaucoup de domaines. Je ne sais pas répondre, mais ça m'interroge beaucoup.
Ouais. Alors son constat, tout le monde le fait plus ou moins aujourd'hui, ça. L'explosion des violences, l'émiettement de la France, ces fameux territoires perdus de la République où policiers, pompiers, médecins n'entrent plus qu'au péril de leur vie. Ce constat, tout le monde le fait, mais les préconisations d'Éric Zemmour, en tout cas certaines de ces préconisations, soulèvent des vagues de protestations. Qu'est-ce que vous en pensez
Moi, j'ai toujours peur de gens qui prétendent avoir des solutions assez radicales, du style « on va faire des avions pour les reconduire à la frontière ». Je pense que la dignité des personnes, quelles qu'elles soient, même celles qui sont violentes, doit être respectée. Et il nous faut réfléchir beaucoup plus en amont. Par exemple, un exemple très simple, beaucoup de jeunes sont en déshérence. Ils ont des familles explosées, ils sont placés par l'ASE dans des familles qui font ce qu'elles peuvent pour les accueillir, etc. À 18 ans, on les met dehors. On les met dehors. Ils n'ont plus rien. Ils pourraient faire de bonnes études pour certains, à condition d'avoir un cadre d'accueil, un cadre de vie, peut-être une famille qui leur donne confiance, qui les aide, qui les écoute le soir aussi. Et on perd ces jeunes-là. Ils vont finir quoi ? Pour une partie, ils s'en sortiront, ils ont de la volonté. Pour d'autres, ils vont zoner, peut-être être délinquant. En tout cas, les trois quarts des SDF sont d'anciens de la ZEU, donc d'anciens de l'aide sociale. C'est cause de violence, c'est cause de frustration, c'est cause aussi de suicide. Donc, il me semble qu'il nous faut des politiques qui aient le courage de voir en amont les solutions et pas de faire les pompiers avec des grands discours. Quand il faut éteindre le feu, il faut l'éteindre bien sûr, mais c'est tellement tard, quoi. Tellement tard, il y a tellement de dégâts. Et j'aimerais pour ça que les politiques qui surgiront à l'occasion des prochaines élections soient des gens de dialogue avec toutes les instances, y compris l'Église catholique, y compris les religieux, ces instances éducatives, associatives, syndicales, économiques, etc. Mais pas des idéologues, car ceux-ci, en général, sont inaptes à embrasser toute la question qui se pose et à la prendre en amont. Voilà, l'idéologie, elle mène à rien. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas très bien. Je prie pour ça, parce que je pense que c'est un vrai sujet pour moi de prière, de prier pour que quelqu'un soit capable de conduire la France dans de bonnes conditions et pas la cliver, encore une fois.
Je voudrais que nous parlions, Monseigneur, à présent, de la formation diocésaine Maison Sûre, qui s'est déroulée dernièrement au sein du diocèse. Elle faisait finalement partie intégrante des préconisations de la Conférence des évêques de France pour lutter contre les faits d'abus sexuels au sein de l'Église catholique. Qu'est-ce qui était au cœur de cette formation ?
Alors, on avait prévu, effectivement, d'assez longue date, il y a plusieurs mois, qu'on avait voulu faire une journée qu'on a appelée Maison Sûre. C'est un mot que le pape François avait utilisé dans ses propos, en invitant tous nos collaborateurs proches, donc les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, donc il y a tous les salariés, les gens qui sont bénévoles mais qui ont une lettre de mission, pour écouter des gens compétents, notamment une femme médecin, victimologue, présidente d'une association importante d'aide aux victimes depuis 20 ans, qui s'appelle Isabelle Chartier-Sibène. On avait une avocate qui a beaucoup travailler pour défendre des victimes, notamment, et même des prêtres. Solange Doumic, on avait invité une personne victime. On avait des personnes compétentes en droit, notamment un prêtre, Jean-Eudes Coulon, qui est doctorant en droit canonique. Voilà, donc on a fait une matinée d'écoute d'une victime, et puis ensuite, vraiment, un exposé très construit, très bien fait sur les processus, les mécanismes qui peuvent conduire à l'abus de pouvoir, l'abus spirituel et l'abus sexuel. On a fait un temps de prière très beau après, avec méditant, en fait, un texte et avec un violoncelle qui a accompagné ce moment-là. Et l'après-midi, il y a vraiment une table ronde de 2 heures, questions-réponses très libres sur ce sujet. Moi, j'ai voulu d'abord que tout le diocèse, tout le département, on puisse être ensemble. On était plus de 150 personnes. Il y a une très belle motivation pour ça, pour être informé, pour entendre la douleur aussi, la douleur qui dure d'une victime, et puis comprendre que c'est pas un petit sujet, que c'est vraiment un sujet qui a une vraie gravité, même si on sait que majoritairement les prêtres se tiennent bien, majoritairement les fidèles laïcs qui animent des camps, des aumôneries, etc., se tiennent bien, etc. Il y a eu des cas quand même dans l'histoire même de ce diocèse, et donc on voulait en parler avec sérieux. Et puis on a bien sûr à Lourdes voté beaucoup de résolutions. Certaines vont impacter directement le département, le diocèse, mais d'autres sont plus larges. Donc on a moins à les mettre en œuvre localement, on peut dire. Par exemple, le tribunal canonique national va pas être établi ici, il va être établi pour toute la France. Donc, mais par contre, accompagner les activités, accompagner les prêtres, mettre en place aussi des protocoles d'accueil d'animateurs, de toute personne qui s'occupe de jeunes, par exemple, devra présenter un extrait de casier judiciaire, par exemple, absolument, etc. Donc on essaie de sans non plus crisper tout le monde et sans donner l'impression qu'on se méfie de tout le monde. C'est plutôt un savoir-être renouvelé. Déjà, beaucoup se faisait avant, mais renouvelé pour être plus serein, et surtout que les parents d'enfants puissent savoir que quand leurs enfants font un camp, un week-end, une sortie scout, une activité, eh bien, ces enfants sont bien encadrés et qu'ils ne sont pas en danger, voilà, de quiconque. Alors, on avance comme ça, et maintenant j'ai proposé que dans les paroisses, dans les 23 paroisses, des laïcs se réunissent, se rencontrent, s'organisent pour partager, pour qu'il y ait un lieu de parole sur ces sujets des abus. Voilà.
Il nous reste quelques petites minutes. Je vais vous poser une question qui demanderait peut-être, je ne sais pas moi, des siècles d'exégèse, mais toujours est-il que je souhaitais qu'on parle de la Sainte Trinité, parce que voilà un dogme particulier à la religion chrétienne qui nous demande de croire en un Dieu en trois personnes, mais un.
Oui,
ça,
alors,
c'est compliqué.
C'est compliqué. Fondamentalement, il est clair que nous croyons en un seul Dieu. Ça, le Coran dit que les chrétiens croient en trois dieux. C'est faux, c'est pas juste. Nous ne croyons pas en trois dieux, nous croyons en un seul Dieu comme chrétiens. Mais Dieu est une entité vivante. C'est pas comme un bloc, comme un caillou qui serait figé sur lui-même. Dieu est pur esprit, Dieu n'a pas de limite. On a du mal à imaginer Dieu d'ailleurs. Et la révélation à travers les écrits de la Bible particulièrement parle parfois de Dieu comme un pluriel. Par exemple, faisons l'homme à notre image. C'est un pluriel. C'est qui ce faisons ? C'est un pluriel. Donc Dieu unique est pluriel. Et en Dieu, par le Christ, on découvre qu'il y a Dieu unique Père, Dieu unique Fils, Dieu unique Esprit Saint. Et que l'échange entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint est un échange infini d'amour. Parce que pour s'aimer, pour aimer, il faut être plusieurs. Je ne peux pas aimer tout seul. Et donc cette dimension trinitaire se révèle à travers notamment la venue du Verbe divin. Dieu a une parole, Dieu a un Verbe par lequel il crée toute chose. Et cette parole vient parmi nous grâce à une femme qui l'accueille en son sein. C'est Marie. Et donc Jésus, cet enfant, va être à la fois vrai Dieu parce qu'il est Verbe divin et vrai homme parce qu'il vient d'une femme. Et donc ça, il nous le révèle, il nous l'explique. Et plusieurs fois dans sa vie se manifesteront ces dimensions trinitaires. Par exemple, son baptême, une voix du Père se fait entendre, le Fils est là et l'Esprit descend sur lui. Et les gens voient quoi ? Quelque chose qui se passe, qu'ils définissent, qu'ils qualifient avec leurs mots humains, comme si une colombe était descendue sur lui. Mais c'est un signe d'une réalité bien plus grande que ça. Donc cette Trinité ne contredit pas l'unicité de Dieu. Mais Dieu vient communiquer ce qu'il est en lui-même. Et nous-mêmes qui sommes appelés un jour à être dans la gloire de Dieu, au ciel, eh bien nous serons en Dieu en quelque sorte. Nous serons en lui, au sein de cet échange d'amour infini, ce qui est incroyable, et entre guillemets vivement qu'on y soit. Quoi. Peut-être pas vivant qu'on meure, mais il faut mourir pour y être, donc bientôt.
Merci de cet éclairage, Monseigneur. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices de Radio Rancière, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.radiorancière.fr. À la semaine prochaine.
Oh,